Alors, pour les présentations, bon, je vais me présenter très rapidement. Le plus important, c'est le contenu de ma présentation plutôt, hein, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je m'appelle Esdine Rolamalla, j'ai 42 ans, j'habite Marseille, je suis franco-algérien, natif de France. Ma mère est française, mon père est algérien, donc on va dire que j'ai cette double culture. À la fois française et musulmane. Donc je disais que j'avais cette double culture et donc je me suis spécialisé maintenant depuis une dizaine d'années dans la finance islamique que j'ai étudiée à Strasbourg en 2013 à la fac de droit. Et là, en ce moment, je fais une thèse en sciences de gestion et justement, je travaille sur la performance des fonds d'investissement islamiques. Alors, pas que la performance financière, mais aussi la performance environnementale et sociétale. Donc, je m'intéresse aussi à l'investissement socialement responsable, au développement durable. Bon, ce soir, je ne vais pas rentrer dans le détail de la finance islamique et des fonds, on n'aurait pas le temps. Je vais surtout vous présenter les principes éthiques et moraux sur lesquels s'est construite cette finance. Et ça correspond au premier chapitre, en fait, d'un ouvrage que j'ai écrit et qui doit paraître là dans les prochains mois et qui s'appelle Islam et éthique des affaires économiques et financières. Donc c'est le titre de la conférence de ce soir, mais c'est essentiellement le premier chapitre qu'on pourrait appeler les fondations théologico-juridiques de l'économie et de la finance islamique. Alors j'ai préparé quand même une présentation. On va démarrer tranquillement. Donc là, on va plutôt passer, je dirais, différents principes et fondements qu'on peut trouver donc dans l'islam en matière d'éthique et de droit des affaires islamiques. Alors, toujours, moi, je fais cet avant-propos. À chaque fois que je fais une intervention ou un cours, hein, puisque j'enseigne la finance islamique dans de nombreuses universités françaises, et très souvent on a un réflexe quand on parle d'islam ou de religion, qui est la question de la laïcité. Très souvent, on a cette question-là, et donc j'avais fait cette découverte. C'était il y a presque une dizaine d'années. Il y a un article qui avait été écrit par un professeur de droit public, Thierry Rambaud. Et donc cet article est intitulé Finance islamique et principes français de laïcité. Et donc la conclusion de l'article, c'était que dans la limite du droit applicable, les citoyens ont la possibilité d'exprimer des préférences religieuses et de le manifester en agissant en accord avec celle-ci. Et donc ces préférences religieuses peuvent être les critères principaux d'une transaction dans laquelle deux parties privées contractent. Par conséquent, le principe de laïcité qui guide le fonctionnement des institutions étatiques n'a pas d'incidence sur des accords conclus entre des parties privées. Autrement dit, dès lors qu'on ne convient pas à l'ordre public, eh bien on peut établir un contrat sur des principes religieux, puisque le contrat est la loi des parties. Alors, je vais essayer de fermer les micros, parce que j'entends des sifflements. Voilà, ça y est. Ici aussi. Voilà, je passe en revue tous les participants. Donc, on est presque 50, donc c'est super. En tout cas, merci à toutes les participantes et à tous les participants. Hein. C'est un plaisir, en tout cas, et un honneur pour moi de pouvoir vous présenter mes travaux. Et ça montre un intérêt, donc ça fait plaisir, vraiment. Donc, je passe hein, cet avant-propos, mais c'est un avant-propos parce que souvent, on a cette question qui peut revenir de la laïcité. Donc, je préfère l'évacuer tout de suite avant d'avancer plus. Alors, Premier constat, et c'est ce qu'on trouve dans l'ouvrage,
Il a fallu que je débarre l'enregistrement.
Je vais prendre mes notes parce que j'ai fait pas mal de découvertes, pas mal de recherches. Donc il y a un point que j'ai intitulé donc la science comme trait d'union entre prophétie et philosophie. Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce que je me suis rendu compte. Alors quand je parle de prophétie, je parle du message islamique. De l'avènement de l'islam par l'intermédiaire du prophète Mohammed, salatu wassalam, donc prophétie, et je dis la science comme trait d'union. Pourquoi ? Eh bien, parce que les scientifiques arabes ont travaillé, je dirais, assez durement pour pouvoir s'approprier le bagage aristotélicien, c'est-à-dire la sagesse grecque, traduire cet héritage-là et le transmettre, et nous le transmettre, ce qui fait qu'aujourd'hui on a eu accès au patrimoine hellénique par l'intermédiaire des scientifiques arabes, puisque eux-mêmes en fait étaient motivés, je dirais, par l'islam à avoir cette approche justement scientifique et à rechercher le savoir. Donc, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, eh bien, la continuité entre la prophétie et la philosophie s'est opérée en terre d'islam, justement par la science. Et on a ce mot en arabe qui s'appelle ilm, science, qui est à l'origine du mot ulema, et qui est également, quand on parle d'un savant, on dit un alem. Et ce terme a largement été utilisé dès l'essor de l'islam, et il se rattache à tous les pans de la société humaine. Qu'il s'agisse de vie religieuse, scientifique ou politique. On a un exemple à ce sujet, c'est la fratrie des Banu Moussa, qui a excellé à la fois dans les mathématiques, dans l'architecture, la mécanique et l'astronomie. Et ces trois frères, en fait, ils étaient fils d'astronomes, hein, donc c'était des fils d'un homme qui était lui aussi un scientifique, hein, donc on dit les chats font pas des chiens. Ils ont évolué au cours du 9e siècle et ils réalisèrent leurs premiers travaux au sein de la Maison de la Sagesse de Bagdad, aux côtés d'autres scientifiques de renom. Et on peut citer, par exemple, vous avez déjà dû en entendre parler, Al-Khawarizmi, son nom a été latinisé, hein, et fut à l'origine du mot algorithme que tout le monde connaît aujourd'hui. Et on a un de ses ouvrages également qui a été à l'origine du mot algèbre. Ça, c'était lorsque ses écrits ont été traduits en Europe au XIIe siècle. On a également Al-Farabi, qui a été considéré par Maïmonide, comme le second maître après Aristote. On a aussi Ibn al-Nafis, qui a été à la fois un juriste, donc un spécialiste du droit islamique, hein, du fiqh, et en même temps le premier médecin à décrire la circulation sanguine, et cela 4 siècles avant William Harvey. À ce sujet, j'aimerais citer donc une citation de Ibn Rushd, qu'on connaît en Europe sous le nom d'Averroès, qui dit que puisque cette religion est vérité, donc il parle de la charia, c'est-à-dire de la loi divine, hein, ou de la religion au sens large, puisque cette religion est vérité et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, savons de science certaine que l'examen démonstratif n'entraîne aucune contradiction avec ce que dit la religion. Car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Et cette citation, elle est remarquable parce que justement, elle permet de comprendre cet état d'esprit. C'est ce que je vous disais lors de mon propos et de mon introduction. Je vous disais que les scientifiques musulmans n'avaient pas peur de l'approche scientifique et de découvrir la vérité, puisqu'ils savaient, ils considéraient, ils avaient cette croyance que ils détenaient la vérité et qu'ils allaient découvrir de nouvelles vérités, mais que ces nouvelles vérités qu'ils allaient découvrir n'allaient en rien contredire la vérité qu'ils détenaient. Et c'est pour ça qu'on a eu cet apport et cet apogée scientifique. Cet apport, justement, eh bien, ils ont été nombreux dans différents domaines, qu'il s'agisse de culture ou de science. Ça, c'est Vernet qui l'écrivait en 78. Vous avez un dernier point là sur la diapositive, Ibn al-Haytham, qu'on appelle al-Hazm. Alors ça, c'est assez magnifique. C'était un ingénieur en optique et il est considéré comme le premier scientifique à avoir proposé une méthode claire et explicite suivant les étapes suivantes. Donc, observation du sujet, énonciation d'une problématique, formulation d'une hypothèse, expérimentation, interprétation des résultats et présentation des conclusions. Eh bien, cette méthodologie-là, c'est la méthodologie qui a toujours cours aujourd'hui en science, en fait. Si vous prenez n'importe quel papier scientifique de recherche empirique, eh bien, vous allez avoir cette méthodologie-là qui est toujours exécutée et qui est présente. Le but de cette introduction, si vous voulez, c'est de dire que, eh bien, il n'y a pas de contradiction déjà entre religion et science du point de vue islamique. D'accord, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, il y a une unité. Et deuxièmement, eh bien, c'est que moi, en tout cas, dans le domaine que j'étudie aujourd'hui, c'est l'économie et la finance. Eh bien, ma conviction, c'est que les scientifiques musulmans ont encore des choses à apporter à l'humanité, notamment en matière de gestion économique et financière, de la même manière que ces scientifiques musulmans ont apporté en médecine, en astronomie et en mathématiques dans de nombreux domaines. Je continue. Alors, cette présentation ici, je définis rapidement qu'est-ce que la charia. C'est le début de l'ouvrage. Puisqu'on a souvent autour de ce mot, je dirais, c'est un mot qui est très péjoratif aujourd'hui dans les médias français, par exemple. Alors que quand on se penche à l'étymologie de ce mot en arabe, eh bien c'est tout le contraire. Pourquoi ? Eh bien parce que littéralement ça veut dire une voie vers une source d'eau. Donc, je vous laisse imaginer ce que peut représenter une source d'eau pour des personnes qui vivent dans le désert. Littéralement c'est la survie, c'est la voie qui permet la survie, c'est la source de vie. Ça a aussi le sens de voie de salut. Strauss nous dit loi première. Loi première, donc la loi naturelle, finalement, donc la loi du créateur. Cette loi, en tout cas, c'est Alak qui l'écrivait, ne fait pas de distinction entre loi et moralité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette distinction. C'est une loi morale. C'est-à-dire que la moralité est dans la loi. Dans le Coran, ce terme n'est employé qu'une seule fois. Nous t'avons ensuite placé sur la voie de l'ordre celui-là. Donc, cette loi, c'est la loi divine. Moi, souvent, à mes étudiants, pour leur faire comprendre, pour leur expliquer le sens, vraiment le sens très large de Chalera, je leur dis, je parle de choses qu'ils connaissent, je leur parle de jeux vidéo. Et je leur dis, bon, imaginez que vous allez créer un jeu. dans ce jeu, ben forcément, vous êtes le créateur. Donc, c'est vous qui décidez de toutes les lois, de toutes les règles. Vous allez le programmer, en fait. Hein. Vous allez programmer un univers. Souvent, je cite le jeu Fortnite. Hein. Je pense que certains connaissent. Un jeu qui a un succès mondial, planétaire. Et donc, vous allez coder, écrire toutes les lois, puisque vous en êtes le créateur. D'accord ? Ben, la charia, à l'échelle des univers, eh bien, c'est toutes les lois qui régissent la création. Donc forcément, les humains, moi, donc du coup, je dis à mes étudiants, je dis, qui connaît la charia alors ? Alors, souvent, il y a deux réponses. Les gens vont dire, ils me disent, ben, personne. Autrement dit, aucun humain ne la connaît en intégralité. Ou Dieu, tout simplement. Il n'y a que lui qui la connaît intégralement, puisque c'est sa loi. Alors après, ce que nous dit l'islam, c'est que les prophètes, eux, ont une connaissance. Et on a même certains personnages, notamment dans le Coran, qui s'appelle Al-Khidr, qui enseigne à Moïse, qui a une connaissance autre encore. Hein. Mais en aucun cas, c'est la connaissance de Dieu. Hein. L'humain a une connaissance très, très, très limitée, justement, des lois divines. Pourquoi j'explique cela ? Eh bien, parce que ça permet de comprendre que cette loi, je fais le lien encore une fois avec la science, c'est que finalement, le mode de connaissance humain, eh bien, se fait soit par l'entremise des prophètes, ça c'est dans le paradigme monothéiste, hein, islamique, hein, soit par l'entremise des prophètes, par révélation, soit par découverte. Et on peut dire par découverte scientifique, c'est-à-dire, je sais pas moi, le théorème de Pythagore, par exemple, bon, ben, les humains ne l'ont pas inventé. Ils ont découvert, c'est le terme, hein, découvrir, donc quelque chose qui était caché, ils ont découvert que le carré de l'hypoténuse est égal au carré de la somme des deux autres côtés du triangle rectangle. C'est une découverte. Donc, ils ont découvert une loi qui préexistait. Donc, ils ont découvert un petit bout du code, finalement. Pourquoi je fais cette distinction ? Puisqu'on a une autre appellation qu'on appelle le fiqh, qui est la jurisprudence, qui est le droit islamique. Et déjà, on fait souvent la confusion entre fiqh et sharia. Donc sharia, on l'a vu, c'est la loi divine. Et le fiqh, le terme arabe, c'est faqaha, la racine, les trois lettres. Et ça a le sens de, justement, compréhension, de concevoir quelque chose, de comprendre. Et donc, qu'est-ce que le fiqh ? Eh bien, c'est la connaissance des dispositions pratiques déduites de la sharia. C'est-à-dire, en fait, c'est l'esprit humain qui va utiliser différents outils, hein, qui ont été d'ailleurs élaborés par les jurisconsultes, les fuqaha, pour justement assurer cette compréhension de la charia. Et donc, par conséquent, eh bien, le fiqh, c'est une science humaine. Et c'est la science de la compréhension de la charia qui, elle, est divine. Donc, souvent, on entend en islam, on dit oui, de l'interprétation, c'est une question d'interprétation, mais en fait, il n'y a qu'interprétation. Et ça, on a des fois, il y a de la méconnaissance autour de l'islam à ce sujet. Après, on a des sources hein, pour cela, c'est-à-dire que vous voyez que sur cette diapositive est écrit le fiqh, ses sources et ses branches. Donc ensuite, il y a différentes sources, des sources primaires et secondaires, qui ont une importance plus ou moins grande, la première étant le Coran, puisque considéré comme la parole de Dieu. Ensuite, on a la Sunna, donc ça c'est les sources primaires, et puis ensuite, les juristes ont élaboré d'autres sources, des sources secondaires, pour pouvoir forger leur jugement. Il y a également des branches. Il y a ce qu'on appelle le fiqh al-ibadat, c'est-à-dire le droit vertical qui régit le culte, l'adoration, c'est-à-dire les relations entre les créatures et le créateur. Et on a le fiqh al-mu'amalat, c'est-à-dire le droit horizontal qui régit les rapports entre les créatures. Alors on a deux grands principes, hein, c'est qu'au niveau de la verticalité, n'est autorisé que ce qui est explicitement prescrit, ce qui permet de garantir que la religion ne change pas, tout ce qui a rapport au culte, par exemple les cinq prières quotidiennes, bon bah on fait cinq prières parce que c'est prescrit ainsi et il y aura jamais six prières ou quatre prières, ça ne changera pas. C'est ce qui permet de ne pas dénaturer la religion et de la conserver telle quelle. L'opposé de la verticalité, c'est l'horizontalité, eh bien, l'inverse de ce principe, rien n'est autorisé sauf ce qui est prescrit, eh bien, au niveau horizontal, tout est autorisé sauf ce qui est interdit. Donc là, déjà, on a une première clé, c'est qu'au niveau de l'éthique des affaires économiques et financières et sociales, au niveau horizontal, en islam, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Alors qu'au niveau de l'adoration, c'est l'inverse. Il n'est autorisé que ce qui est prescrit. Sinon, on innove dans la religion ce qui est proscrit. Alors qu'au niveau horizontal, donc, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Et il y a assez peu d'interdits, en sachant qu'on va le voir, hein, là, ultérieurement, l'éthique islamique des affaires prône essentiellement la justice et l'équité. Voilà, c'est ce que on cherche, c'est ce que les juristes cherchent à préserver dans les rapports humains, dans les rapports tout court, parce que même vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux, etc., c'est l'absence d'injustice, l'absence de préjudice, et donc l'équité entre les parties qui doit être préservée. Alors, Ibn Khaldoun, hein, j'ai cité, qui est considéré comme le père des sciences historiques, politiques et de la sociologie, a indiqué que les lois dérivaient à la fois du Coran et de la Sunna, donc ça c'est les sources primaires, ainsi que des indications apportées par le législateur. Et donc, ces lois, qu'on appelle hukum, sont tirées par le faqih, donc le faqih, vous voyez, c'est celui qui exerce le fiqh, ce faqih n'est pas obligé de connaître l'ensemble des règles, hein, c'est pas possible. Par contre, il faut qu'il soit apte à les dériver, c'est-à-dire à utiliser les sources, les usul, pour pouvoir apporter un jugement et qualifier juridiquement un acte comme étant soit permis, soit recommandé, soit déconseillé, soit obligatoire, ou soit interdit. Il y a cinq niveaux de qualification des actes. Alors, j'avance un petit peu, parce que je vois que l'heure tourne très très vite. Donc, je vous disais que la première des sources qui est retenue, c'est le Coran, qui est considéré comme la première source par excellence. Donc, si on veut connaître la source d'une interdiction, par exemple, dans les affaires économiques et financières, eh bien, on va d'abord aller la chercher dans le Coran. Alors, ce qu'on peut dire sur le Coran, c'est que il est considéré par les musulmans comme le point terminal de la révélation pour l'humanité et se présente comme la récapitulation et la synthèse des messages antérieurs contenant les paroles de Dieu directement révélées au prophète Mohammed, salatu wassalam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et le Coran, justement, rappelle qu'il n'a été donné aux humains que très peu de connaissances, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et donc les scientifiques en général, hein, font preuve d'une grande humilité devant l'ignorance humaine. Plus on en sait, et plus on se rend compte qu'on sait très peu de choses. Ça aussi, je l'explique souvent aux étudiants, et généralement, on tombe tous d'accord là-dessus, donc je vais le partager avec vous ce soir. Je leur dis, bon, si on devait recenser toutes les connaissances acquises par l'humanité de la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces connaissances-là, est-ce que c'est quelque chose qui serait quantifiable à l'instant T? Est-ce qu'on peut le mesurer? Et la réponse est oui. Même si c'est beaucoup de connaissances, hein, de la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, ça reste limité. C'est certes moins que demain, puisque d'ici demain, on va encore découvrir de nouvelles choses, mais ça reste quelque chose de limité. Je leur pose ensuite la question, ce que nous ignorons, ce que l'humanité ignore, est-ce que c'est quelque chose qui est limité ou illimité? Et la classe me dit, bah, c'est illimité. Et donc, à ce moment-là, je leur pose la question, je leur dis, bon, bah, très bien, donc vous me dites que la connaissance humaine est limitée, alors que son ignorance est illimitée. Qu'est-ce que ça représente, le limité sur l'illimité, d'un point de vue mathématique? Bah, ça représente zéro, presque zéro. Autrement dit, quelle que soit la grandeur de la connaissance humaine, elle représente quasiment rien au regard de son ignorance. Voilà. Et ça, on peut le démontrer d'un point de vue mathématique. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est ce qui fait que l'être humain doit être humble, je dirais, devant la connaissance et surtout devant son ignorance. Et ça, le Coran le rappelle. J'avance un petit peu parce que, bon, je pourrais parler pendant des heures, mais on est limité et c'est vrai que j'ai prévu pas mal de choses à vous montrer. Deuxième source primaire, la Sunna, donc c'est la tradition prophétique. Et donc, la Sunna contient les dires, les actes et les approbations implicites ou explicites du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle hadith. Bon, il y a toute une technique, hein, toute une science qui s'est développée pour pouvoir déjà discerner quel hadith était authentique de ceux qui étaient forgés. Et ensuite, une classification pour justement, avoir une indication quant au degré d'authenticité du hadith. Ce qu'il faut savoir, c'est que le hadith est composé de deux choses, ce qu'on appelle le contenu, le sens, sa chaîne de transmission. C'est les deux éléments qui sont évalués. Donc en fait, il faut que le contenu et le sens correspondent et coïncident, je dirais, d'une part avec le message coranique, qu'il ne soit pas en contradiction avec le message coranique, et qu'ensuite le niveau d'arabe et de langue utilisée corresponde à celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième élément, on va regarder également la qualité des transmetteurs. Donc on appelle l'isnad. Et c'est à partir de ces éléments-là, eh bien, que les muhaddisoun, c'est-à-dire ceux qui sont spécialisés dans cette science de classification des hadiths, vont les classifier. Donc, ça, c'est ce qu'on avait. Donc, on est parti de la charia. Je vous ai dit que la charia, c'était la loi divine. Je vous ai dit que le fiqh, c'était la compréhension de cette loi. Et que pour cela, les oulémas utilisaient des sources qu'on appelle Usul al-Fiqh. Parmi ces sources, on a des sources primaires et secondaires, et dans ces sources primaires, on a le Coran et la Sunna. On a une deuxième partie dans les Usul al-Fiqh qui s'est développée, c'est les finalités de la loi qu'on appelle Maqasid al-Shari'a. C'est-à-dire que les savants musulmans se sont posé la question pour se doter d'un outil supplémentaire pour tester la validité de leur jugement. Ils se sont posé la question de l'esprit des lois, c'est-à-dire quelles étaient les finalités de la loi. Autrement dit, qu'est-ce que recherche le Créateur au travers de sa loi naturelle, de la Sharia. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion que la loi visait la préservation. Alors attendez, j'ai des micros qui sont ouverts à nouveau, j'entends des voix. Je le ferme ici. Voilà, c'est bon. Donc, la finalité de la loi cherche la préservation, à assurer la préservation. Et assurer la préservation de 5 éléments vitaux. On va du plus spirituel vers le plus matériel. Premièrement, la religion, din. Donc vous voyez là en vert hein, sur le schéma. Ensuite, l'esprit, l'aql, l'intellect, en mauve. En fait, on descend, hein, on va du plus spirituel vers le plus matériel. Ensuite, l'esprit, c'est le corps, donc nefs, l'âme. Le prolongement du corps, eh bien, c'est la progéniture, les générations futures, les enfants, et puis pour finir, les biens, la richesse, elle-même. Donc déjà, on voit bien que l'esprit des lois en islam, eh bien, accorde l'importance, c'est-à-dire c'est de dire que, en fait, c'est la matière est dominée par l'esprit. D'accord ? Le plus important, c'est l'esprit, puisque l'être humain, il est fait à la fois de matière et d'esprit. C'est ce que nous enseigne le Coran, mais je pense aussi la Bible. Excusez-moi. Et donc, si on prend l'exercice du jeûne, par exemple, que ce soit le jeûne de Ramadan ou le carême, c'est un exercice justement pour qu'on prenne conscience que notre esprit domine notre corps et la matière, finalement. Et non l'inverse. C'est aussi ça l'enseignement de toutes les religions. C'est que l'esprit doit toujours avoir le dessus sur la matière. Donc on le retrouve dans la préservation de ces cinq finalités. Et donc l'objectif de la loi, c'est de préserver ces cinq éléments et de chasser tout ce qui peut leur nuire. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi certaines choses sont autorisées et d'autres sont interdites par le droit musulman. Si je prends l'exemple de l'alcool, par exemple, pourquoi l'alcool est interdit ? Bah parce qu'il s'en prend à l'intellect. Pourquoi le tabac est interdit ? Bah parce qu'il s'en prend au corps. Il cause des dommages à la santé. Pourquoi l'éducation est recommandée et même obligatoire ? Eh bien, parce que ça permet aux générations futures, à la descendance, de s'élever, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant, puisque moi j'étudie la question du développement durable, vous savez, la préservation des générations futures, etc., ça c'est le rapport Brundtland, c'est au milieu des années 80. Et ce que je vous présente ici, ma précédente chaléra, c'est le 11e siècle. Donc en fait, on voit que les scientifiques musulmans étaient très avancés à l'époque, puisque dans leur représentation de leur science juridique, eh bien, il y avait déjà cette préoccupation des générations futures. Alors aujourd'hui, on a des savants contemporains qui ajoutent à ces cinq éléments la préservation du vivant et de l'environnement, c'est-à-dire deux éléments supplémentaires pour les finalités de la loi. Alors, je continue. Donc, je vous ai mis ici une citation d'Al-Shatibi qui a écrit sur ce qu'on appelle Maqasid al-Shari'a. Et ça aussi, c'est très intéressant puisque ça permet de comprendre, si vous voulez, l'état d'esprit des savants musulmans et de l'islam en matière de législation. Les lois divinement révélées ont toutes été établies pour préserver les intérêts des êtres humains, puisque Dieu veut notre bien. Donc les lois qui existent sont là pour préserver nos intérêts. Et déclarer que la législation sur l'islam a été révélée, donc là, ouvrez les guillemets, c'est ce que dit Chatibi, sur la voie de la plus grande modération et celle qui dirige un cours intermédiaire entre les deux extrêmes dans une mesure inébranlable. Donc la voie de la modération entre les deux extrêmes. Encore une fois, ce principe de justice et d'équité cette voie médiane entre les extrêmes. Ça, c'est parce qu'on a aussi une parole du prophète qui indique que l'islam est une voie médiane, une voie entre les extrêmes. C'est pour ça que quand on parle d'extrémisme aujourd'hui, on entend parler d'extrémisme. En théorie, il ne peut pas y avoir d'extrémisme en islam. C'est pas possible, puisque l'islam prône la modération et prône le juste milieu. Et ça, c'est dans ses sources scripturaires. C'est quelque chose d'explicite. Il n'y a pas besoin d'interprétation là-dessus. Alors, on va maintenant passer en revue quelques principes éthiques et moraux qu'on trouve justement dans l'économie, dans la finance en islam. Tout d'abord, la question des richesses. Alors là, je vous ai mis à droite une belle calligraphie. C'est un nom de Dieu, c'est un nom d'Allah, et il est écrit Ar-Razaq. C'est un nom propre. Et Razaq, on a le terme risque qui découle de ce mot-là. Risque, c'est la subsistance. Et les richesses, c'est du risque, mais c'est plus large puisque l'esprit, même une connaissance, c'est aussi Dieu l'esprit. Mais, si vous voulez, dans le paradigme islamique, eh bien, toutes les richesses proviennent de Dieu. C'est un bienfait de Dieu. Et donc, les créatures vivantes ne devraient pas avoir à s'en soucier, puisqu'il incombe directement à Dieu de les nourrir. Ça, c'est le premier point. Donc, les richesses sont considérées comme un don divin. Et on a le nom, donc un des noms de Dieu, Al-Razzaq, le pourvoyeur de subsistance. Et ce nom-là incarne justement cet attribut. En même temps, les richesses, elles sont considérées comme une tentation. Pourquoi ? Eh bien, on a deux versets ici. Donc, verset 25, sourate 8, et verset 3, sourate 65. Sachez que vos richesses et vos enfants ne sont qu'une tentation, et qu'auprès de Dieu, il y a une magnifique récompense. Donc ça, c'est pour illustrer la question de la tentation. Pour ce qui est de la subsistance, de l'octroi de la subsistance, eh bien, on a ce verset, « Et lui procurera sa subsistance par une voie sur laquelle il ne comptait pas. Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. Dieu atteint ce qu'il se propose. Il a fixé pour chaque chose une mesure. » Donc ça, vous avez déjà dû l'expérimenter. Des fois, quand vous faites un sacrifice pour Dieu, que vous décidez de renoncer à une forme de rémunération, j'ai envie de dire, forme de richesse, mais si vous y renoncez, c'est que de toute façon, elle ne vous était pas destinée. Eh bien, juste après, dans l'heure ou dans les jours qui vont suivre, eh bien, vous allez avoir une subsistance qui va arriver par une voie sur laquelle vous ne comptiez pas. C'est assez extraordinaire, mais ça se passe très souvent comme ça. Quand la personne est sincère et qu'elle renonce pour Dieu à une forme de gain qu'elle préfère donner ou ne pas prendre, ou que sais-je encore, eh bien, là, on voit que la richesse, elle vient par une autre voie. Et donc, c'est illustré dans ce verset, parce qu'en fait, c'est Dieu. La richesse ne vient que par Dieu. Et donc, c'est une tentation, parce que si on oublie cela, on peut être grisé par la richesse et on peut croire qu'on se suffit à soi-même, on peut avoir cette illusion de force et de puissance, alors qu'en fait, même cette force et cette puissance ne sont octroyées que par Dieu, en fait. Il peut les retirer comme il le veut en un clin d'œil. La propriété. Donc, on a abordé la question de la richesse. Voilà, je vous avais dit, il n'y a pas trop de fil conducteur. Là, j'aborde quelques petits points comme ça. Il y a tellement de choses à dire, de toutes les façons. Donc, alors, la question de la propriété, on a des économistes qui ont dit que l'économie islamique, c'est un peu une voie aussi du juste milieu entre le communisme et le capitalisme. Alors, pourquoi ? On va voir quelles sont les différences et puis quels sont les points communs. Alors, déjà, l'islam diffère du libéralisme, puisqu'il s'oppose à l'accumulation du capital à l'aide de l'intérêt. Ça, c'est une grosse différence. Mais en même temps, il est aussi en opposition avec le socialisme, puisqu'il protège le droit à la propriété individuelle et à celle des moyens de production. Et puis, on a de nombreux versets dans le Coran qui protègent justement la propriété en interdisant le vol et l'accaparement des biens d'autrui. On a des hadiths aussi, confirme ce qu'on trouve dans le Coran, qui indique que les biens sont sacrés et donc inviolables. Par exemple, il est formellement interdit d'usurper ne serait-ce qu'un empan de terre. Cela étant, la propriété doit s'acquérir de manière licite, c'est-à-dire par le travail, les ventes, l'héritage et tout contrat légal de donation. On n'a pas le droit d'arnaquer les gens ou de s'enrichir à leur détriment, bien évidemment. Alors, je vous ai mis quelques exemples avec des versets. Verset 188, sourate la vache, sourate 2, et verset 183, sourate 26. Que les uns ne s'emparent pas illicitement des biens des autres, ne vous en servez pas pour corrompre les juges dans le dessein d'accaparer une fraction du bien d'autrui, injustement et en toute connaissance de cause. Donc là, non seulement on ne doit pas s'accaparer, mais en plus, vous voyez, la corruption est pointée du doigt. Ne spoliez pas les gens dans leurs biens et ne commettez pas d'abus sur la terre en corrupteur. Le Coran est très clair là-dessus au niveau de ses principes éthiques et moraux. Il est limpide. Alors, les notions de risque et de responsabilité, ça c'est central en économie et en finance islamique. On a deux grands principes, al-kharaj bid-daman et al-rum bil-ghur. Alors, qu'est-ce que ces deux principes? Le premier, il dérive d'une parole qui a été attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui considère que le droit au profit dans une affaire dépend de la responsabilité que le vendeur ou l'investisseur va devoir assumer pour pouvoir légitimer son profit. Alors de manière très simple, hein, c'est par exemple si je vous loue une voiture, bah, je dois vous louer une voiture en état de marche. C'est parce que je vous garantis le fait que le véhicule que je vous loue fonctionne, eh bien que vous me versez un loyer en contrepartie. D'accord ? Donc, le principe kharaj, c'est le profit, et daman, c'est la garantie. C'est parce que je garantis que j'ai droit au profit. Si je ne garantis pas, je n'ai pas droit au profit. Ça, c'est le premier principe. On le retrouve, hein, même dans le droit français, c'est un principe, je dirais, logique, hein, qu'on retrouve ça dans le droit et dans la justice. Al-Rum, Bil-Rum, alors, c'est autre chose. Là, en fait, c'est pour signifier que le profit dépend aussi de la capacité à assumer les pertes. Autrement dit, pour avoir droit au profit, je dois prendre part au risque. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces deux maximes? Eh bien, plusieurs choses, hein. Tout d'abord que si je garantis pas, j'ai pas droit au profit. Si je ne prends pas part au risque, je n'ai pas droit au profit. Question de justice. Donc, il n'est pas possible de garantir profit et capital. Il y a cette notion de prise de risque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique, par exemple, à la finance islamique. On a un accent qui est mis là-dessus. Et quand il n'y a pas prise de risque, eh bien, il doit quand même y avoir... On doit assumer ses responsabilités. Voilà, c'est très important. C'est une question de justice. Alors, j'avance. On pourrait en parler, hein, de ces deux maximes pendant des heures. On pourrait détailler, mais je n'ai pas le temps. Il est déjà 9h20, donc il me reste même tout juste 10 minutes. Alors, peut-être que je déborderai de quelques minutes. Hein. J'aimerais bien aborder l'ensemble des notions, mais je suis obligé d'aller assez vite. Alors, par conséquent, déjà, on peut aussi conclure que le prêt d'argent normalement constitué ne saurait générer de profit. Si je garantis la restitution du capital, ben, ça veut dire que quelque part, je n'ai pas pris de risque, moi en tant que prêteur. Et si je n'assume pas les pertes, ben, c'est illégitime, c'est injuste que je puisse encaisser un profit. Parce que bah ce principe de prêt d'argent rémunéré, eh bien, il est contraire à celui de solidarité et à ces deux maximes légales qu'on vient de voir. Pour pouvoir tirer, profit d'une somme, alors là, qui ne serait pas prêtée, mais qui serait investie, eh bien, il faut pouvoir assumer les pertes potentielles. Et là, ça devient juste. Alors, la question des dettes, qui est très importante aussi en économie et en finance islamique, il y a une sagesse aussi. Hein. Moi, j'ai vu dans les textes, je me suis rendu compte de deux choses. C'est qu'en fait, il y a une sagesse parce qu'il y a une incitation des personnes endettées à payer leurs dettes coûte que coûte. Et en même temps, il y a une incitation des créanciers à éponger, à annuler et à effacer les dettes. Donc, en fait, on agit, je dirais, la sagesse islamique agit des deux côtés. Donc, on encourage les débiteurs à honorer leurs dettes et les créanciers à les effacer. En même temps, on déconseille le recours à la dette, c'est-à-dire qu'on doit avoir recours à la dette que si on ne peut pas faire autrement. Le prophète, cette Salem, si on suit son exemple, eh bien, cherchait à se préserver de la dette, car il affirmait qu'un homme, quand il est endetté, eh bien, il ment quand il parle et il ne tient pas sa promesse quand il l'a fait. Donc, je vous ai dit que le paiement de la dette était très important en islam. Par exemple, on a de nombreux hadiths hein, à ce sujet. Celui qui retarde le paiement de ses dettes alors qu'il est aisé commet une injustice. Et un autre hadith qui indique que l'on pardonnera au martyr tout péché, sauf la dette, et que les meilleurs sont ceux qui effectuent le meilleur remboursement. Il y a cette notion-là, si vous voulez, dans l'éthique musulmane des affaires, le meilleur remboursement et le meilleur paiement aussi. Puisque, par exemple, on a une tradition qui dit qu'un travailleur, quand il a fini son ouvrage, on doit le payer avant que la sueur de son front n'ait séché. Et ça, on voit trop aujourd'hui dans les affaires. On est toujours obligé de courir après pour obtenir son paiement, hein, pour une prestation qui a déjà été réalisée. On a des paiements qui s'étalent dans le temps. Beaucoup d'entreprises qui font faillite à cause de ça, hein, parce que on a des débiteurs qui n'honorent pas. Leur dette. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, un, on encourage le débiteur à régler sa dette et on encourage le créancier à l'effacer. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est tomber dans un système où ce serait l'inverse. Ça serait catastrophique. Alors, pour comprendre un petit peu l'éthique des affaires en islam, alors déjà, je peux vous faire un parallèle, c'est une petite découverte que j'ai faite. Éthique, ça vient de ethos en grec, hein, c'est le caractère. Arrêté, étiqué, l'expression arrêté, étiqué, ça veut dire l'excellence du caractère. Parce que arrêté, en fait, ça veut dire à la fois vertu et excellence. C'est un synonyme, c'est-à-dire la vertu, c'est excellence, l'excellence, la vertu. Donc, ethos, le caractère. On a également en latin, on a mos pour les mœurs, qui a donné morale. Donc on voit que ces deux termes, si on revient, je dirais, au sens étymologique, c'est le même sens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disait qu'il n'avait été envoyé que pour parfaire le caractère, parfaire les comportements, parfaire les mœurs. Et donc, de ce point de vue-là, on peut faire un lien, c'est-à-dire l'excellence du caractère, entre éthique, morale et islam. Et donc, l'éthique musulmane des affaires, moi, si je devais la définir, eh bien, je dirais que c'est apporter l'excellence du caractère dans les affaires, justement dans un domaine où la cupidité des humains s'exprime. Et donc, ce serait quoi cette excellence du caractère dans les affaires? Eh bien, c'est ce hadith hein, qui est là sur la diapositive, que Dieu accorde sa miséricorde à celui qui est généreux et conciliant quand il vend, quand il achète et quand il réclame son dû. Donc, généreux et conciliant. Alors, être généreux quand j'achète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis prêt à payer un peu plus cher que le prix. Généreux quand je suis vendeur, ça veut dire que je consens à vendre un peu moins cher que le prix. Plutôt que l'inverse, hein. C'est-à-dire je suis acheteur, j'essaie de tirer le prix, de prendre le vendeur à la gorge en le sous-payant, ou quand je suis vendeur, essayer de maximiser mon profit, de lui vendre le plus cher et éventuellement profiter d'une position dominante pour imposer mes prix. Donc on voit que là, c'est l'inverse. On a un autre hadith qui est intéressant aussi. Les deux parties ont le choix tant qu'elles ne se séparent pas. Si elles sont sincères et franches, leur transaction sera bénie. Donc la sincérité et la franchise. Autrement dit, l'absence de mensonges et de tromperies. En revanche, si elles mentent et dissimulent un défaut, la bénédiction sera ôtée de leur transaction. Voilà, donc ces deux hadiths, je dirais, résument très bien l'éthique des affaires en islam. La générosité, la franchise et la sincérité, donc la transparence. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, en propos liminaire, que ce qui était visé dans le Firq al-Mu'amalat, c'est-à-dire dans la jurisprudence des affaires horizontales, c'était la justice et l'équité. Et là aussi, on a énormément d'exemples dans le Coran. Vous qui croyez observer strictement la justice en témoin de Dieu, fût-ce contre vous-même, vos ascendants ou vos proches. Donc ce verset coranique, il est inscrit sur le perron à Harvard, un fac de droit aux États-Unis. Puisque observez strictement la justice, fût-ce contre vous-même. Donc la notion, elle est vraiment, elle est très forte. C'est-à-dire là, il n'y a pas de faux témoignage. C'est pas j'essaie de sauver ma peau. C'est même contre moi-même, je dois observer la justice. Lorsqu'ils commettent une turpitude, ils déclarent « c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Dieu ». Dit « Dieu n'ordonne aucune turpitude ». Direz-vous de Dieu ce que vous ne savez pas. Dieu n'ordonne aucune turpitude. C'est très clair. Dit « Mon Seigneur juge selon la vérité ». D'accord ? Donc on peut dire que l'islam ordonne la justice et l'équité dans les affaires au regard de ces versets-là. Donc cette thématique de la justice est centrale. Chaque victime d'un préjudice a le droit d'être dédommagée. Et encore une fois, on a cette sagesse, puisque le Coran encourage à faire preuve de clémence et à pardonner. Faire preuve de patience et de clémence, en vérité, cela fait partie des choses requises. Souvent, on a un enseignement sur les trois monothéismes. Œil pour œil, dent pour dent, le talion, l'Ancien Testament, c'est observer la stricte justice à condition de ne pas exagérer, c'est-à-dire œil pour œil, c'est pas œil pour jambe ou œil pour autre chose, c'est œil pour œil, dent pour dent. Le problème du talion, c'est que on va rajouter du mal au mal en stricte égalité, mais ça fait multiplier par deux quand même, hein. Donc on va rajouter du mal au mal, avec le cycle de vengeance, etc. etc. Ensuite, on a l'approche de Issa, de Jésus, alayhissalam, que la paix de Dieu soit sur lui, qui nous dit « tendez l'autre joue ». Et ça, c'est encore un niveau supérieur que le talion, parce qu'au moins, on ne va pas rajouter du mal sur du mal. On arrête le mal. On l'arrête. Donc ça, c'est déjà un niveau très élevé. Et on a un niveau qui va encore plus loin, qui est l'enseignement du prophète Mohammed, qui dit « Celui qui te fait du mal, fais-lui du bien. Réponds-lui par du bien. » Bon, moi, j'ai déjà essayé, c'est quasiment impossible. Hein, franchement, essayer de faire du bien à quelqu'un qui nous fait du mal, c'est très, très, très compliqué. Mais l'avantage que cela a, c'est que ça va neutraliser le mal, puisqu'on va rajouter du bien sur du mal, et à un moment donné, on va réussir à éteindre l'incendie de cette manière-là. Donc, ce que nous dit le Coran, c'est que le talion, eh bien, oui, c'est la justice. La victime a le droit d'être indemnisée à hauteur de son préjudice. Ça, c'est la justice. Mais l'équité, c'est-à-dire aller au-delà, c'est Aristote hein, qui dit ça, hein, qui dit que l'équité, c'est renoncer à son droit, bien qu'on en ait le droit de la justice. Eh bien, l'équité, c'est de pardonner et de faire preuve de clémence. Alors, au niveau de ces notions de justice et d'équité et de préjudice, eh bien, on a une autre maxime légale, l'adarar ou aladirar, que l'on peut traduire par aucun préjudice ni aucune réciprocité dans le préjudice. Donc, on ne doit pas subir de préjudice ni faire de tort à autrui. C'est pour ça qu'en islam, les règles du bon voisinage sont aussi contraignantes, j'ai envie de dire, que le voisin a autant de droits. Tout simplement parce que l'enseignement islamique, c'est justement de ne pas faire subir de préjudice au sens large, c'est-à-dire aux autres et à soi-même. Alors, j'accélère un petit peu parce que je sais qu'il est 9h30 et que normalement, j'ai presque fini. Autre point important, Dieu vous prescrit de restituer les dépôts à leurs propriétaires et de juger avec équité quand vous arbitrez entre vos semblables. Le dépôt, c'est la amana. Et je pense que ça peut vous intéresser puisque le mot amana, il partage en fait avec le mot iman, la foi. Et une amana, c'est un dépôt. Et la foi aussi, c'est un dépôt. Pourquoi la foi en islam est considérée comme un dépôt? Eh bien, parce que finalement, Dieu a déposé quelque chose dans nos cœurs, ce dépôt. Le Coran nous dit que ce dépôt, il a été proposé aux montagnes et les montagnes ne l'ont pas accepté parce qu'il était trop lourd à porter. Et donc, ce dépôt, en fait, ben, justement, on va devoir rendre des comptes sur la restitution de ce dépôt qui est en nous. D'accord. Et donc le Coran nous enjoint à restituer les dépôts. Donc le niveau de la foi, c'est d'arriver à préserver ce qui est en nous au travers de cette expérience dans la matière, dans la matérialité, dans cette vie, tout en réussissant à préserver ce qui est en nous, ce qui est au fond de nous, pour pouvoir le restituer à son propriétaire. Donc ça, c'est très important aussi, puisque ce principe se décline dans les affaires. C'est-à-dire que la amana, c'est quelque chose de très important dans l'éthique islamique des affaires et qu'on doit veiller à restituer les dépôts. Dieu ordonne l'équité, la bienfaisance, la libéralité envers les proches parents et interdit la turpitude. Donc ça, c'est la sourate 16, les abeilles, au verset 90. Alors, j'avance un petit peu, je vais sauter celle-ci, puisque vous voyez que sur la justice et l'équité dans les affaires, il y a beaucoup, beaucoup de sources. Mais vous l'aurez compris, c'est un point important, je vous l'avais dit. On a également le respect des engagements et de la véracité, très important, et donc ça se décline aussi dans les affaires, qui demeure fidèle aux engagements qu'ils ont contractés. Ne trahissez point vos serments après les avoir solennellement prêtés. Ceux qui respectent fidèlement, les dépôts qu'on leur confie et les engagements qu'ils ont pris. Alors, sur cette notion de véracité, tout à l'heure, je vous ai dit que Ar-Razzaq, c'était un nom divin, le pourvoyeur de subsistance. Eh bien, on a un autre nom divin qui est Al-Haq, littéralement le vrai, avec un V majuscule, ou la vérité. Et donc, en fait, c'est pour ça que cette notion de véracité est aussi centrale en islam, puisque c'est un nom de Dieu. Et c'est aussi pour ça que, je vous le disais tout à l'heure, hein, les scientifiques musulmans n'avaient pas de problème avec la vérité scientifique, puisque en la découvrant, ils ont l'impression de se rapprocher de Dieu. Et donc, les musulmans cherchent, en tout cas, ceux qui cherchent à se rapprocher de Dieu, mais normalement, c'est le but, hein, puisque l'islam est un moyen qui doit nous permettre d'atteindre ce but, puisque la finalité, c'est Dieu. Eh bien, pour pouvoir s'en approcher, doivent incarner cette véracité dans les actes et dans les paroles. Donc, en tant que serviteur d'Al-Haq, les croyants doivent arborer, certaines vertus morales, dont la véracité. Et donc cela est rapporté explicitement dans le Coran, les échelons, verset 33, ceux qui disent la vérité quand ils témoignent. Alors, la darar, wala dirar, on en a parlé sur la question du préjudice. Donc, on ne doit pas subir de préjudice ni faire subir de tort à autrui. J'accélère un petit peu. Alors, ce point-là, en question du préjudice, est important. Parce que c'est un élément qui, aujourd'hui, répond. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'étais posé sur la question de savoir qu'est-ce que pouvait apporter l'économie islamique à la résolution des crises, qu'elles soient environnementales ou financières dans le monde contemporain. Et là, on a un point qui est central ici. On a une fatwa, donc un avis juridique, on n'entend pas suffisamment parler, qui a été quand même adopté dès 2009 par l'Académie islamique internationale du FIRC. Et donc cet avis juridique, suivant le principe de prévention des dommages, eh bien interdit d'occasionner des dommages environnementaux nuisant à l'équilibre écologique ou d'utiliser les ressources d'une manière non durable et ne tenant pas compte des intérêts des générations futures. Donc, par conséquent, d'un point de vue économique, ce que nous dit aussi l'islam à ce sujet, c'est que la croissance économique ne doit pas être réalisée dès lors qu'elle ne respecte pas les principes de durabilité et de non-exploitation. Donc, de cette manière, eh bien, depuis 2009, on a un avis juridique donc qui stipule que la protection de l'environnement et la politique de conservation de l'énergie par les économies d'énergie est une obligation religieuse. Donc, ça me semblait important le souligner. Alors, j'aborde ici rapidement la question du marketing et de la publicité. Ça peut venir un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est quand même important de dire un mot là-dessus, puisqu'on a quand même beaucoup de manipulation aujourd'hui qui est faite là-dessus. J'ai écrit « Penser le désir sur le mode du manque est une erreur, puisque le désir est sans objet et ne vise que sa propre prolongation. Alors que les besoins, véritables besoins humains, reposent justement sur un besoin réel. Et le problème avec la publicité telle que nous la connaissons, c'est que le marketing transforme les besoins en désirs et cherche à entretenir les consommateurs dans un perpétuel état de manque et d'insatisfaction. Et cette approche est problématique dans une conception islamique de la publicité. Pourquoi ? Eh bien parce que cet état d'insatisfaction est contraire à la psychologie de l'homo islamicus. Puisque, en théorie, un homo islamicus est constamment satisfait de ce que Dieu lui procure. Donc, ça me permet d'aborder maintenant la notion, justement, de l'homo islamicus. J'avance, parce que je sais que j'ai déjà dépassé. Voilà. Alors, j'ai presque fini. Je vous demande encore 5 minutes d'attention. Donc, ce que nous disent les enseignements de l'économie islamique, puisqu'il y a, si vous voulez, une grosse différence déjà, puisqu'en économie conventionnelle, on parle d'homo economicus. En économie islamique, on parle d'homo islamicus. Et ce que nous dit l'économie islamique, c'est que le bien-être humain ne dépend pas seulement de la maximisation de la consommation et des profits. Et on reconnaît une dimension spirituelle aux humains dans les modèles d'économie islamique. Donc on a vu que la richesse avait un statut particulier. Et en plus de cela, on a aussi une parole prophétique qui dit que la richesse n'est pas l'opulence, mais plutôt le contentement de l'âme. Donc cette satisfaction de ce que Dieu nous donne. C'est ça la véritable richesse. Dans le sens islamique du terme. Et en plus de cela, on a également un principe aussi qui est très fort, c'est l'absence de gaspillage. Et donc, cette surconsommation, le gaspillage qui est lié à la surproduction dans cette société de consommation, eh bien ça aussi, l'économie islamique, je dirais, diffère de l'économie conventionnelle, puisqu'elle elle prône la modération. Et on a ce verset, sourate 6, les bestiaux, verset 141, « Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent ». Donc, surproduction, surconsommation, dans un paradigme islamique, ça ne fonctionne pas. Autre différence, eh bien, bien évidemment, la motivation des individus. Puisque dans le paradigme islamique, on va considérer les individus comme responsables et œuvrant pour le bien-être social. Et la finalité, ce qui est recherché finalement, eh bien, c'est la réalisation des maqasid al-shari'a, c'est-à-dire assurer le bien-être à toute la famille humaine en poursuivant un idéal de justice socio-économique. Dernier point, et puis je pense que je vais m'arrêter là-dessus, il est 10h moins quart, c'est les différences qu'on peut avoir entre l'homo islamicus et l'homo economicus. Premièrement, cette perspective de l'intérêt. L'économie conventionnelle nous dit que les hommes, les humains, sont sordidement égoïstes. Alors, aujourd'hui, c'est critiqué. On a même un prix Nobel, Sen, qui dit que c'est des idiots rationnels. Il n'appartient pas, je dirais, au paradigme de l'économie islamique, mais c'est pour vous dire que cette vision aujourd'hui est dépassée. Les êtres humains sont altruistes, ils ont des attentes morales, et en plus de cela, ceux qui sont croyants ont une vision qui dépasse leur vie terrestre. C'est-à-dire que quand ils agissent, ils tiennent compte de la vie future dans laquelle ils croient. Et donc, ça change considérablement la représentation et la conception du monde. On n'est pas dans un individu, on n'est pas avec un individu qui est sordidement égoïste, mais on est avec des individus qui ont des attentes morales et qui peuvent être altruistes. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce que dit finalement l'islam, eh bien, c'est que la jouissance des biens de ce monde est indissociable du devoir de partage et de modération. Autrement dit, le comportement rationnel de l'homo islamicus se conçoit en la poursuite de son intérêt propre, auquel va s'ajouter des contraintes liées à l'intérêt social. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai été obligé d'accélérer, mais j'ai déjà dépassé d'une quinzaine de minutes. Donc, je vous remercie pour votre écoute et votre attention, et on va donc laisser place aux échanges.